Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre frère.
Bienvenue à vous tous ici pour ce moment avec le chœur de l'Oratoire du Louvre ce matin et son maître de chapelle Fabien Aubé. Nous serons accompagnés ce matin par David Cassan à l'orgue et nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver ce dimanche matin où vous savez que dans notre pays en ce moment, la situation malheureusement n'est pas très bonne pour la santé de beaucoup et nous voulons que ce culte soit un moyen aussi de penser à eux et de penser à nous tous pour cet avenir qui semble toujours incertain. Que le Seigneur nous accompagne dans cette longue attente. Aujourd'hui, nous aurons la joie aussi d'accueillir les enfants de l'école biblique, non pas ici au Temple, mais par des séances Zoom pour des questions de sécurité de tous. Nous avons préféré continuer ce système. En revanche, les catéchumènes nous rejoindront pour pouvoir être alors en plein air, pour plus de sécurité aussi, mais dans une promenade dans le Paris protestant. Donc nous irons voir du côté du Faubourg Saint-Germain ce qui se passait avec les protestants. Donc voilà, donc c'est une journée d'école biblique un peu étrange évidemment puisqu'ils ne sont pas visibles ici, mais nous les saluons par le biais d'Internet et nous savons que sans doute leurs parents sont derrière l'écran. Nous voulons aussi saluer tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, on peut le dire, et qui sont toujours fidèles et qui sont toujours là avec nous pour nous soutenir dans notre tâche, dans cette annonce de l'Évangile. Bonjour à vous et bon dimanche. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remettons ce temps. Permets que nous soyons ensemble dans la même communion fraternelle. Que cette Église rayonne de tout l'amour que tu peux apporter à chacun de nous dans la foi. Que nous soyons capables tous ensemble de faire rayonner cet amour sur ce monde, fatigué, meurtri, épuisé par tant d'attentes, épuisé par tant de deuils aussi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui luttent contre la maladie aujourd'hui, et notamment pour tous ceux qui soignent les malades dans les hôpitaux avec l'inquiétude de l'urgence. Donne-leur le courage et la santé pour continuer à aider ceux qui ont été touchés par la maladie. Nous te demandons ton secours, nous te demandons la foi pour continuer à annoncer ton évangile avec l'audace que tu nous commandes. Amen. Et nous nous réunissons dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret inséré au début du psautier. Je vais demander à David de prendre les bons spontanés du temps de la passion. Ah, voilà. Alors, si on peut reprendre le spontané du début du culte, voilà, de la liturgie de la passion dans les psautiers, tout au début. David, si tout va bien.
Thank you.
mon Dieu. Ô Seigneur notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté des cieux. C'est la voix des petits-enfants, des tout-petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui ? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui ? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, les moutons, les chèvres et les bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce qui va son chemin dans les mers. Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Et nous poursuivons notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 107. Psaume 107, nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4 dans le psautier français.
Je vous invite à vous asseoir. Écoutons maintenant comment Dieu nous révèle sa volonté. Il nous dit simplement, par l'intermédiaire de son Fils Jésus, « N'aie pas peur, crois seulement. » Chantons ensemble notre reconnaissance pour cette parole qui nous libère. Nous présentons devant le Seigneur avec cette prière que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, une prière anonyme de notre époque. Seigneur, excusez-moi si je vous dérange. Il m'est venu tout à l'heure à l'idée que vous aviez besoin d'un saint. Alors je suis venue pour la place. Je ferai très bien l'affaire. Quoi qu'on en dise, le monde est rempli de gens parfaits. Il y en a qui vous offrent tant de sacrifices pour que vous ne vous trompiez pas en les comptant. Ils les marquent avec une petite croix sur un carnet. Moi, je n'aime pas les sacrifices. Ça m'ennuie énormément. Ce que je vous ai donné, Seigneur, vous savez bien que vous l'avez pris sans permission. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne pas rouspéter. Il y a aussi des gens qui se corrigent d'un défaut par semaine. Ils sont forcément parfaits au bout d'un trimestre. Moi, je n'ai pas assez confiance en vous pour faire ça. Qui sait si je vivrai encore au bout de la première semaine? Vous êtes si imprévisible, Seigneur, si impulsif, mon Dieu. Alors j'aime autant garder mes défauts en m'en servant le moins possible. Amen. Le Seigneur nous redit sa grâce. Dans sa grande miséricorde, il nous regarde et nous dit « Va en paix ». Alors, Seigneur, merci pour cette paix que tu nous donnes. Merci pour cet amour inconditionnel que tu nous redis sans cesse. Que chacun ici sente cet amour sur lui. Que chacun ici se sente dans la grâce de Dieu.
Nous restons debout pour confesser notre foi. Je crois en un Dieu unique, un Dieu d'amour, libre et tout-puissant, créateur des choses visibles et invisibles. Il parle à tous les cœurs et nous aime sans condition. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu et homme, venu pour annoncer la grâce que Dieu donne gratuitement à tous. Toujours vivant, il nous appelle à construire aux côtés de Dieu un monde de justice, d'amour et de paix. Je crois au Saint-Esprit, puissance créatrice, présence et sagesse de Dieu, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Je crois que la véritable nature de l'homme, image de Dieu, est de faire le bien. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons dans la dignité et la liberté. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, nous sommes toujours au désert avec le Christ. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, à partir du verset 5, le récit de la tentation au désert continue avec ces mots. Le diable emmena Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet » et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Je vous invite à chanter ensemble le cantique 218, les strophes 1, 2 et 3 dans les prières. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, amour qui se propose à mon alliance, qui suscite en moi la vie, feu brûlant qui ne s'éteint jamais, consume mes passions pour qu'elles deviennent dons. Aide-moi à faire de moi, dans le silence et l'effacement absolu, un espace illimité pour que ta présence infinie de lumière et d'amour y naisse et s'y révèle. Apprends-moi à te découvrir sans cesse et sois la respiration de ma vie, mon ciel intérieur, mon soleil caché, ma tendresse, et que je puisse, par ta grâce, refléter ton visage à tous mes frères. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Être fille et fils de Dieu nous donnerait-il le droit de braver ainsi la mort ? Qu'on ne se méprenne pas sur le problème que pose ce texte. Le diable de l'évangile de Matthieu ne demande pas à Jésus de se suicider. Il ne s'agit pas de se jeter dans le vide pour se donner la mort volontairement, mais bien plutôt d'aller vérifier qu'on est immortel, parce qu'on a acquis le statut d'enfant de Dieu. Le diable n'a pas réussi à provoquer Jésus la première fois en l'incitant à combler immédiatement ses besoins. La faim n'a pas pu provoquer la chute de ce nouvel Adam adopté par Dieu lors de son baptême. C'est maintenant d'une autre façon qu'il provoque Jésus. L'arme de division, cette fois, c'est celle de la lecture littérale de l'Écriture et de la véracité de la parole de Dieu. L'évangile de Matthieu met dans la bouche de ce provocateur intime les paroles du psaume 91 qui décrivent la protection qu'octroie Dieu à ceux qui croient en lui. Dans ce psaume, celui qui aime Dieu, celui qui lui obéit, est déclaré hors d'atteinte de tout mal, de la violence des hommes comme de la fatalité de la maladie ou de la catastrophe. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le jeune lion et le dragon. Puisqu'il s'est épris de toi, je lui donnerai d'échapper. Pardon, puisqu'il s'est épris de moi, je lui donnerai d'échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, dit le Seigneur. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse et je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de la longueur des jours et je lui ferai voir mon salut. Dans ce psaume, qui raconte la relation du psalmiste avec son Dieu et qui ressemble bien davantage à une confession de foi qu'à une exaltation d'un brave la mort. Dans ce psaume, l'élu de Dieu n'a rien à craindre, en effet, car Dieu s'est épris de lui. On y découvre une véritable déclaration d'amour. Comme le dit aussi Dieu dans le livre d'Ésaïe, « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Nous savons tous, pour le vivre chaque jour, que la fidélité de Dieu n'est pas comptable de notre foi. Sinon, il aurait vite désespéré. Une épidémie ne tue pas que les mécréants, nous l'avons bien vu, et ceux que le psaume nomme les méchants, nous sommes bien placés pour le savoir. Si le cancer ne frappait pas aussi ceux qui confessent leur foi en Dieu, les fidèles seraient encore plus nombreux dans cette église aujourd'hui et s'y trouveraient entre gens de bonne et pieuse compagnie, sans jamais avoir à se rendre dans les hôpitaux. Ils seraient exemptés de tous ces maux. Les hommes comme Dietrich Bonhoeffer n'auraient pas été victimes de la barbarie nazie, puisqu'ils avaient la foi. Ils auraient échappé au pire par la seule foi qu'ils avaient et qui les animait, et par leur mérite aux yeux de Dieu pour construire le royaume de Dieu. Les théologies de la prospérité dans notre monde actuel, qui cherchent à attirer dans un acte prosélyte les fidèles en mal de secours et de protection, utilisent volontiers cet argument marketing d'un salut commensurable à la foi et à l'observance des règles morales indiquées par des spécialistes de la vie chrétienne. Ils savent comment doit être un chrétien. Celui qui s'y conforme le plus étroitement est alors déclaré le plus aimé de Dieu. Et la prospérité de ses affaires, même matérielles, devient alors une preuve que Dieu le bénit et l'aime vraiment. Malheur à tous ceux qui vont si mal dans notre société. La provocation diabolique, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, est une provocation à la preuve. Le diable incite Jésus à obtenir une preuve de l'amour de Dieu pour lui. Ainsi, la foi de Dieu en Jésus et la foi de Jésus en Dieu, cette alliance basée uniquement sur la confiance et sur l'amour mutuel, est-elle pervertie par une faille qui vise à mettre en doute ce qui la fonde même? Le diable ressemble à ces humains pervers qui, mettant en doute l'amour de l'autre, se mettent en danger pour vérifier combien l'autre tient à eux. Mais la foi n'a par définition rien à prouver. Et c'est ce qui la différencie de la superstition et de la perversion. Cette deuxième tentative de pervertir la foi de Jésus au désert est une mise à l'épreuve de l'amour de Dieu pour l'homme. Me sauvera-t-il si je tombe? Ils sont tellement nombreux. Les croyants qui cherchent des preuves de l'existence et de l'efficacité de Dieu sur cette terre, qu'il semble que toute religion soit enfermée dans cette fatalité de la preuve. On imagine des économies du salut dans lesquelles le prix à payer est plus ou moins accablant pour l'homme, plus ou moins matérialiste, plus ou moins pervers aussi. Cela va des dévotions en tout genre dans lesquelles le fidèle s'acquitte de tâches qui sont censées plaire à Dieu et qui doivent être quand même un peu désagréables, des pèlerinages, des sacrifices, des ascétismes, culpabilisants, des renoncements aux désirs profonds de chacun, renoncement à ce qui fait que nous sommes des êtres de chair, tout simplement. Les sources chrétiennes, tous ces textes très édifiants qui relatent les histoires des pères de l'Église, regorgent de récits étranges où les hommes martyrisent leur vie et leur corps pour plaire à un Dieu qui est pourtant révélé comme Dieu de la vie dès le récit des patriarches. C'est ainsi que l'on décrit Simon le stylite, passant sa vie sur une colonne, ou encore les femmes emmurées vivantes, croupissant dans leurs excréments pour plaire à Dieu. Et alors, quelle preuve de l'amour et du salut de Dieu auront-ils obtenu ces saints de Dieu? Pourquoi souffrir autant? Cette culture de la preuve théologique a inspiré aussi les tribunaux qui jugeaient les sorcières dans une chrétienté qui confondait le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et ceux qui aujourd'hui jugent encore la véracité des miracles semblent chercher des preuves, parfois matérielles, de choses d'un autre ordre pourtant. Mais de quelle autorité se réclame-t-il et aux critères de quel règne se réfère-t-il pour juger l'authenticité d'un miracle? Ce qui est miracle pour l'un ne l'est peut-être pas pour l'autre. Pourquoi substantialiser un miracle? Celui de Dieu ou celui des hommes? Quel est le critère? La foi des saints de Dieu, comme les appelle la Bible, ceux qui mettent tout simplement leur confiance en lui, ne suffit-elle pas à reconnaître la présence salutaire de Dieu à leur côté? Où est la fidélité à cette grâce divine qui calme nos peurs et nous dit « Ma grâce te suffit, elle s'accomplit dans ta faiblesse ». À cette mise à l'épreuve de Dieu, Jésus répond par une autre citation de l'Écriture qui introduit du jeu dans la lecture littérale pour accéder à l'interprétation. Il répond à la provocation par ces mots « Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu ». Les évangiles nous racontent l'itinéraire de Jésus comme un chemin qui va inéluctablement vers la mort au nom de la foi en Dieu. On pourrait voir en ce cheminement, mis en scène par les auteurs des évangiles, comme une tragédie dans laquelle il faut que le Fils de l'homme périsse, et donc une apologie du sacrifice de la vie humaine. Jésus alors serait victime nécessaire, expiatoire, pour que tous soient sauvés. C'est une théologie très classique. Le Christ apparaît alors comme ces suicidaires qui cherchent la sanctification dans l'anéantissement de leur propre vie, dont parle d'ailleurs le philosophe Schopenhauer, mais lui pour parler d'une autre religion, celle des hindous. S'infliger une pénitence, écrit-il, volontaire, au milieu de lents et terribles supplices, en vue d'une mortification complète de la volonté, poussée finalement jusqu'à la mort par la faim, ou jusqu'à celle qu'on trouve en allant se jeter au-devant des crocodiles, en se précipitant de la roche sacrée du haut de l'Himalaya, ou en se faisant enterrer vivant, ou enfin en se plaçant sous les roues de l'immense chariot qui promène les statues des dieux, parmi les chants et les cris de joie et les danses des bayadères. Et ces prescriptions, dont l'origine remonte à plus de 4000 ans, sont encore observées aujourd'hui. Des préceptes observés si longtemps par un peuple qui compte des millions d'individus, imposant des sacrifices si lourds, ne peuvent pas être une fantaisie inventée à plaisir, mais ils doivent avoir leurs racines dans le fond même de l'humanité. Ajoutons qu'on ne peut assez admirer l'accord qu'il y a entre la conduite d'un ascète chrétien ou d'un saint et celle d'un hindou lorsqu'on lit leur biographie. Et c'est Arthur Schopenhauer qui écrit ça dans Le monde comme volonté, comme représentation. Dans les cas décrits par le philosophe allemand du XIXe siècle, le martyr, celui qui sacrifie sa vie dans un geste au comble du romantisme, le fait pour sa propre sanctification et ne travaille en rien au salut de tous, il meurt. Et comment sa mort pourrait éviter quoi que ce soit aux autres? Il n'est pas question ici de confondre évidemment la question du suicide avec celle du martyr. Le problème est trop grave pour qu'on les confonde. Si l'acte de martyr semble forcer l'admiration pour le courage qu'il semble requérir, ce désir de pénitence, aussi spectaculaire soit-il, n'en est pas moins problématique quand même. Pourquoi ce qui fait la condition humaine même devrait-il être anéanti au nom de Dieu? Quel Dieu, ami des hommes, pourrait vouloir leur anéantissement? Dans le cas de Jésus, les récits évangéliques rendent, par le biais d'une réécriture a posteriori, à faire comme si Jésus s'attendait à sa mort prochaine et la sublimait. Nous ne saurons jamais ce qu'il en était, car lui-même ne semble pas avoir laissé de témoignage personnel écrit par sa main, et nous n'avons que les paroles relatées dans les œuvres de composition que sont les évangiles. Mais le Dieu de Jésus est un Dieu qui adopte l'homme par ses mots. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis ma joie ». Alors comment imaginer que Dieu veuille la mort de son enfant? Il nous faut entrer en résistance, mes frères et sœurs, en résistance contre cette tentation à laquelle tant de fois le discours religieux succombe, celle de douter de l'amour inconditionnel de Dieu et de remettre des conditions à l'amour que Dieu promet pourtant gratuitement à l'homme. Il nous faut résister au désir de preuve, là où Dieu nous donne son amour sans condition, par pure grâce, et où la foi de chacun devrait suffire. Il nous faut sortir de ce chantage affectif dans lequel les religions ont enfermé l'homme et ont imaginé Dieu. Le protestantisme lui-même, après avoir opéré cette réforme extraordinaire et affirmé le salut par pure grâce, a succombé à cette tentation lui aussi. Il en est résulté un puritanisme culpabilisant dans bien des domaines et une culture de la faute propre à donner de Dieu la représentation d'un père pervers à l'égard de ses enfants. Ce Dieu-là n'est pas mon Dieu. Et quand les hommes et les femmes souffrent ou meurent à cause du témoignage qu'ils rendent au règne de Dieu, ce n'est pas par joie ou par plaisir, mais c'est parce qu'ils sont victimes de la bêtise humaine et non victimes expiatoires que Dieu exigerait pour que nous tous nous allions mieux. Le Christ lui-même n'a-t-il pas demandé au seuil de son supplice que le calice qui lui était tendu soit éloigné de lui si cela était possible? Il voulait échapper à la mort. Quand le Christ répond au diable avec les mots du Deutéronome « Tu ne mettras pas à l'épreuve ton Dieu », il rappelle le commandement « Aime ton Dieu de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence ». Ce qui revient à dire « Aime-le avec ce que tu es, humain, avec tes désirs, avec tes rêves, avec tes espoirs, avec tes désespoirs aussi, avec tes craintes et tes fragilités, mais ne doute pas un instant de son amour infini pour toi. » Le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu de la vie, frères et sœurs. Même si le Christ, qu'on a reconnu comme son Fils, est mort pour l'avoir enseigné et l'avoir vécu. Si nous sommes filles et fils de Dieu, alors plaçons notre foi dans cet amour sans ruse qui s'est épris de notre vie et a choisi notre corps pour en faire son temple. La vie humaine est précieuse, frères et sœurs. Nous l'expérimentons chaque jour et nous n'avons aucune preuve à produire pour affirmer notre foi en un Dieu qui l'a béni. Libérés de la tentation de la preuve, nous serons libres alors de servir avec fidélité celui qui a placé son amour en nous. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons chanter ensemble avec le 298, les strophes 1, 2 et 3. Et bien sûr, même si le chœur chante, vous pouvez chanter à pleine voix. Alors c'est dans les louanges et prières, 298. Voilà, il y a quand même le saint tremblement, mais voilà, je vous invite à vous asseoir. Et nous écoutons quelques annonces par notre présidente Aurore Sagliotebo.
Bonjour à tous, merci infiniment d'être aussi nombreux physiquement et également derrière la caméra en direct ou en différé, puisque vous êtes aussi beaucoup à revoir le culte ou les prédications ou les réentendre. Je pense que le message d'aujourd'hui aura besoin d'être réécouté et réécouté. Nous devons être distanciés, ça fait plus d'un an ou quasiment. Notre promesse, c'est de ne pas rester isolé ou de ne laisser personne isolé. Le conseil presbytéral s'y attelle, j'allais dire jour et nuit en ce moment, avec aucune envie de pénitence, pour faire référence à la prédication que nous avons entendue, ni envie d'être sanctifié, ni martyrisé d'ailleurs. Cette semaine, pour justement ne pas être isolé, se ressourcer, gagner en humanité, parce qu'en étant ressourcé, on gagne en humanité. Deux événements, mardi et jeudi midi, physiquement dans le temple, 12h30, 13h30. Mardi, Béatrice en partage biblique. Jeudi, Agnès Adeline Schaeffer en pause spirituelle. Pourquoi le mardi et le jeudi 12h30, 13h30 ? C'est pour permettre à tout le monde, au plus grand nombre d'être là, ceux qui travaillent, mais également ceux qui ne travaillent pas, puisque des paroissiens nous ont fait remarquer qu'en ce moment, il y a beaucoup d'embouteillages et des transports qui sont encombrés. Venir à l'heure du déjeuner, ça évite, ça permet de garder plus de distance dans les transports et moins d'embouteillages. Donc 12h30, 13h30, mardi et jeudi. Également, groupe de jeunes se réunit en distanciel mercredi soir à 19h sur le thème de la fécondité. Parlons d'avenir. Quoi d'autre ? L'AG, l'Assemblée générale. Donc, vous savez que le Conseil presbytéral, chaque année, nous avons une Assemblée générale. Nous avons choisi la date du 11 avril. Pourquoi le 11 avril ? C'est juste après Pâques et c'est avant les vacances scolaires. Donc, dimanche 11 avril. Dès que la convocation est partie, nous allons commencer la rédaction du prochain bulletin de la feuille rose. Nous en sommes en ce moment à chercher le thème, puisque le principe de la feuille rose, le bulletin trimestriel, c'est d'annoncer des activités, mais en plein Covid, annoncer des activités un trimestre à l'avance, on ne sait pas faire. Donc nous sommes en train de réfléchir à un thème spécial pandémie, qu'est-ce qui pourrait intéresser nos lecteurs au bout d'un an de lire et quelle plume nous aurions envie d'avoir en train d'écrire dans la feuille rose. Voilà pour les annonces. Également, la trésorière me signale que le panier digital ne marche pas. Donc j'espère que vous avez plein de monnaie dans les poches, parce que nous avons les scouts qui vendent des gâteaux. Et puis pour l'offrande, nous ne pourrons pas prendre la carte bleue comme d'habitude. Mais la trésorière sera au fond du temple avec une borne carte bleue pour les dons si vous désirez de faire des dons. Et je rappelle, c'est pareil pour les dons en ligne. Si le don, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, vous pensez à votre don joyeux, combien voulez-vous donner, et vous multipliez par 3, puisque les impôts vous rembourseront les 2/3. Merci beaucoup.
Voilà, c'est maintenant le moment d'écouter les scouts qui vont nous dire un peu quel est l'objet de leur vente de gâteaux.
Merci beaucoup. Du coup, on vend des gâteaux. C'est cette vente qui nous permet, nous, de financer notre camp, notre matériel. L'année dernière, ça a été très compliqué, du coup. On n'a pas pu du tout en faire, ce qui a causé beaucoup de problèmes. Cette année, on a donc cette chance et on aimerait en profiter. Donc voilà, on vous attend à la sortie. Ah, c'est nous-mêmes. Tout est fait à nous-mêmes. Et bien sûr, durant cette vente, tous les gestes barrières seront bien évidemment respectés. On a fait très attention à ça.
Merci beaucoup et bravo aux scouts de continuer leurs activités malgré toutes ces difficultés actuelles. Bravo à vous et bon courage. C'est le moment de l'offrande donnée avec toute la générosité qui est la vôtre. Nous nous réunissons dans la prière. Seigneur, bénis-nous quand nous cherchons les preuves de ta présence auprès de nous. Et permets que nous sachions toujours que tu es là, même quand tu te tais. Nous te demandons, Seigneur, ton secours pour tous ceux qui, à travers le monde, meurent pour leurs idées. Qu'on en fasse des martyrs ou qu'on les oublie, la mort d'un homme pour ses idées est toujours la mort d'un homme. Et c'est toujours un manque absolu pour notre terre qu'une pensée qui s'éteint. Nous te demandons, Seigneur, le courage de t'annoncer sans te prouver. Le courage de dire que tu es là sans apporter aucune preuve de ta présence. Que notre foi, Seigneur, soit la manifestation de ta présence dans ce monde. Que notre foi fasse rayonner ton amour pour ce monde. Nous te demandons, Seigneur, ton secours pour tous les pays où la religion est mise à l'épreuve. Où certains croyants se considèrent de meilleurs croyants que les autres, où les guerres de religion font encore rage. Permets, Seigneur, que ton nom ne soit plus identifié à la violence des hommes, qu'il ne soit plus utilisé pour nos propres passions. Permets que nous soyons artisans de paix, hommes et femmes de dialogue, et que nous puissions convertir nos cœurs pour commencer par nous-mêmes. Que les guerres qui sont sourdes au fond de notre cœur ne jaillissent pas dans notre monde. Que nous sachions te les remettre pour être pacifiques avec nos frères et nos sœurs. Donne-nous ton amour toujours et permets que tous ceux qui croient en toi puissent entendre ta parole comme une parole de libération. Et ensemble, filles et fils de Dieu, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, ici c'était le moment d'une halte, le moment de revenir au désert pour regarder ce qu'il en était de notre cœur à tous. Maintenant nous allons retrouver les autres, ceux qui n'auront pas entendu forcément les mêmes mots, ceux qui auront en eux une autre foi, ceux qui auront en eux la même foi que nous et ne le sauront pas. Alors allons les retrouver avec le seul plaisir de partager cette foi. Et souvenons-nous de ce slogan protestant, rien à prouver. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, nous bénit et nous garde. Amen.